Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Dubois. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Christophe Flaise. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Flaise, vous êtes ici pour nous parler d'un événement qui va se dérouler ce samedi 8 avril à Poney-Saint-Auban. Et c'est il s'agira de l'ouverture à 18h30 de la brasserie Flaise avec un concert aussi prévu en soirée à 20h avec les voleurs de pompes qui proposent un swing de contrebande. Alors, cette brasserie Flaise, pour vous, Christophe, c'est un vieux rêve?
Ah oui, on peut dire ça, oui. C'est, effectivement, c'est l'aboutissement de au moins 10 ans de réflexion et presque autant de brassins. Ça fait pas loin de 10 ans que je brasse un peu dans ma cave. Alors avant, j'étais pas à Poney, hein, j'étais dans un village en Bourgogne, un petit village aussi d'une centaine d'habitants.
Qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous installer d'ailleurs à Poney-Saint-Auban?
Alors c'est amusant parce que je rencontre beaucoup de gens depuis que je suis ici qui sont venus dans le Diwa pour la vie culturelle, pour les rencontres, etc. Et moi, en fait, c'est pas pour ça que je suis venu. Moi, je suis venu pour le Vercors, parce que je suis passionné de montagne. Et une des choses que je préfère au monde, c'est d'être tout seul sur les hauts plateaux, dans les grandes forêts ou dans les falaises. Voilà. Et cela dit, la vie culturelle et la vie sociale qu'il y a dans le Diwa, c'est une énorme cerise sur un magnifique gâteau, quoi. Je dois dire, je suis vraiment très agréablement comblé de ça.
Une passion aussi pour la randonnée en moyenne montagne, peut-être plus aussi
En moyenne montagne, effectivement. Par le passé, j'ai fait pas mal d'escalade, mais c'était une autre vie. Maintenant, non, vraiment, ce que je recherche, c'est les quelques interstices qui restent vraiment sauvages. Me faufiler un peu dans ces interstices et aller tout seul, souvent, chercher un peu de vie sauvage, un peu de nature préservée. Il y en a plus beaucoup, même par ici, mais ça existe encore et c'est toujours un grand moment pour moi d'y être.
Cette brasserie Flaise, il s'agit de, pour vous, la plus petite brasserie artisanale du Diwa. Donc vous allez nous expliquer justement cette démarche, pourquoi cette intimité peut-être entre vous, brasseurs, et les clients, les passionnés de bière.
Oui, c'est exactement ça. Alors la plus petite brasserie artisanale du Diwa, j'en ai fait mon slogan, mais comment dire, pour affirmer que c'est une réalité, c'est pas juste quelque chose que je dis comme ça parce que je commence. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit quand j'en parle aux gens, je dis que j'ai une brasserie qui est toute petite. Les gens me disent oui, mais c'est normal, c'est le début, tu vas grossir. Mais non, vraiment, l'intention, c'est de rester petit. Il se peut que je grossisse un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment dans le concept de ce projet, c'est d'être petit. Et effectivement, vous parliez d'intimité avec les clients, avec les gens, j'ai même pas envie de dire des clients, même si c'est le mot, mais avec les gens que je vais rencontrer et qui vont boire ma bière, c'est vraiment ça, quoi. C'est que je puisse rencontrer individuellement les gens, leur expliquer ce que je fais, leur faire goûter, discuter avec eux, éventuellement modifier les choses si beaucoup de gens me disent, c'est pas ça, ceci va pas, ou voilà. Et être aussi dans un circuit ultra court, c'est-à-dire que la bière est en très grande partie vendue directement à la brasserie, soit à emporter, les gens viennent, achètent des bouteilles, repartent, soit sur place lors d'événements comme celui qui aura lieu samedi. J'espère faire régulièrement des concerts, des soirées, peut-être des projections, etc. Quoi.
Pour cela, vous avez mis en place le Poney Club, avec donc cette première proposition. C'est cet outil-là qui vous permettrait justement de à la fois d'amener, de lier la culture et aussi la brasserie.
Oui, exactement. Le Poney Club, alors c'est C'est un peu pour faire un jeu de mots avec Poney. Hein. On hésitait entre ça et Je peux pas, j'ai Poney. Ça sera peut-être le nom d'un festival. On fera peut-être le Je peux pas, j'ai Poney numéro 1 plus tard. Mais voilà, c'est pour dire que à la fois, c'est quelque chose qui est vraiment tourné vers le village. J'ai la chance d'avoir été très, très bien accueilli dans ce petit village. C'est vraiment... voilà, je fais vraiment partie, je crois, maintenant du village, alors que ça fait peu de temps que j'y suis, et les gens m'ont vraiment très, très bien accueilli. Donc c'est aussi pour accueillir le village et faire un lieu de vie et un lieu de convivialité dans le village. Mais par contre, c'est certainement pas un club privé, et c'est bien sûr ouvert à tous, sinon je serais pas là pour en parler d'ailleurs. Et j'espère que les gens viendront nombreux. Peut-être pas trop nombreux quand même, parce que le lieu est petit, mais voilà, au pire, on se tiendra chaud. Et on se rafraîchira avec de la bière.
La bière, ce n'est pas le début. Cela fait un moment que vous travaillez sur ce domaine de la brasserie. Vous l'avez commencé déjà en étant en Bourgogne.
Oui, tout à fait. Comme je disais, ça fait, je ne sais plus, je crois que ça fait 8 ans que j'ai fait mon premier brassin. D'ailleurs, quasiment jour pour jour, je pense. C'était au mois d'avril. Et donc j'ai fait pas mal de brassins, mais en amateur, je précise, jusqu'à récemment. C'est-à-dire que je faisais des petits brassins, j'imagine, comme beaucoup de gens, des petits brassins de 25 litres voilà, dans ma cave. Mais dès le début, je dois dire que j'avais en ligne de mire ce projet. Alors je ne savais pas exactement quelle forme il prendrait, hein. Bien sûr, ça s'est affiné dans le temps, mais le projet quand même de un jour monter une brasserie professionnelle et... associé à un lieu de programmation musicale, parce que par ailleurs je suis musicien et j'ai une grande passion aussi pour la musique, et en particulier la musique live. Et voilà, et en plus il se trouve que la bière et la musique live, c'est deux choses qui fonctionnent plutôt bien ensemble. Donc c'était vraiment mon rêve, quoi, depuis très longtemps de pouvoir faire ça.
L'investissement est assez conséquent justement pour lancer cette activité au niveau du DIY.
Alors l'investissement, il est conséquent, oui et non, tout est relatif. Disons que avec l'investissement que j'ai fait pour ma petite brasserie de 150 litres, j'aurais sans doute pu viser un volume plus important avec du matériel beaucoup plus à l'arrache, entre guillemets, avec de la récup, avec des choses comme ça. Et partir sur une brasserie plus importante. Mais ce n'était pas mon but, quoi, je le répète. Et il est important pour moi de proposer aujourd'hui une bière qui soit vraiment de qualité, avec une constante, une qualité constante d'un brassin sur l'autre, d'avoir quand même une maîtrise, parce que la bière, c'est un domaine où il y a énormément de paramètres techniques quand même à maîtriser. Et ça passe par de bonnes recettes, ça passe par un bon brasseur, mais enfin, ça passe aussi pas mal par du matériel, comme dans beaucoup de domaines. Et voilà, j'ai fait le choix aussi d'avoir du matériel performant, mais à une échelle toute petite. Donc oui, ça a un coût, mais pour un projet de brasserie professionnelle, ça reste un coût extrêmement minime. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire quelque chose de tout petit, c'est que je voulais pouvoir financer ça avec mes fonds propres, ne pas aller voir la banque, ne pas être endetté, ne pas du coup devoir produire beaucoup, passer par des distributeurs, etc. etc. Je voulais vraiment que ça soit cohérent, quoi. Rester petit, vendre en direct... avoir un rapport direct avec les gens, que les gens consomment sur place dans la mesure du possible. Voilà.
Vous avez acquis un savoir-faire, hein, donc depuis 8 ans. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ce savoir-faire, vous l'avez en quelque sorte emmagasiné, et peut-être aussi de manière à pouvoir avoir, comment dire, une certitude dans ce processus de fabrication? Vous savez à quel moment la cuisson est bonne, est-ce qu'il y a des temps de refroidissement, de reprise, ou alors est-ce que vous utilisez aussi peut-être l'outil numérique?
Alors des certitudes, il faut en avoir un petit peu, mais je pense que le jour où on en a trop, c'est mauvais signe. Dès lors qu'on travaille avec du vivant, parce que malgré tout, c'est quand même la bière, c'est quelque chose de vivant. Hein, ce sont des micro-organismes qui font la bière. Le brasseur, finalement, c'est un éleveur de levures avant tout. C'est les levures qui font la bière, donc on essaye de leur donner les meilleures conditions possibles. Après, je dis souvent, les gens me demandent est-ce que c'est difficile de faire de la bière. Non, faire de la bière, c'est extrêmement simple. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple que de faire de la bière. Faire de la bonne bière, c'est un petit peu plus difficile. Et faire de la bonne bière de nombreuses fois de suite identiques, là, ça, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Ça dépend pas mal de l'expérience, ça dépend pas mal aussi du matériel. Après, il y a d'infinies possibilités, en fait. C'est ça qui est magique avec la bière, c'est qu'à partir de quelques ingrédients de base, hein, du malt de céréales, d'orge le plus souvent, du houblon, de l'eau, bien sûr, c'est l'ingrédient principal, et de la levure, ben, on peut faire des choses extrêmement différentes, quoi. C'est assez incroyable.
Donc, pas de numérique.
Ah, pardon, oui, si. Alors, si, j'utilise effectivement, pour composer les recettes, je m'aide en fait d'un logiciel, enfin il en existe plein, j'en ai utilisé plusieurs. En fait, ce sont des logiciels qui sont essentiellement des grosses calculatrices, parce qu'il y a des choses toutes simples, j'ai essayé de donner un exemple pour que les gens puissent comprendre. Si au moment où on fait ce qu'on appelle l'empattage, c'est-à-dire qu'on fait macérer le malt d'orge dans de l'eau chaude, on vise une température de, par exemple, 67 degrés. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on veut 67 degrés, c'est très précis. Et on a, je dis n'importe quoi, on a 50 kg d'orge, on a 150 litres d'eau, et on a une grosse casserole pour mettre tout ça. Et on veut qu'une fois que tout est mélangé, paf, ça soit pile bon à 67 degrés du premier coup. Bah, y a deux options, quoi. Soit on met de l'eau chaude au pif, on met du grain au pif, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas assez chaud ou c'est trop chaud, et après, c'est la galère. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a des processus chimiques et biologiques qui sont à l'œuvre, et bah, ça rate ou ça donne un truc qui n'était pas prévu. Soit on utilise un logiciel qui va nous aider un peu, on lui dit, bah voilà, j'ai 15 kilos, j'ai 50 kilos de malt qui est à 12 degrés parce que c'est la température de mon local. Ma casserole, elle est en inox, elle pèse 40 kg et elle est aussi à 12 degrés. Et le logiciel, il dit, bah voilà, c'est facile, t'es 150 kg d'eau, t'es 150 litres d'eau, il faut qu'il soit à 76,4 degrés. Et quand tu vas tout mélanger, tu vas arriver à 67 degrés. Voilà, donc ça permet ça. Et ça simplifie beaucoup la vie et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu prévisible, quoi. Voilà.
Tu proposes combien de types de bières à l'heure actuelle ?
Alors pour l'instant, les gens qui viendront samedi en découvriront deux pour sûr. La Cascade Pâle, qui est ma bière phare un petit peu, c'est une blonde de soif légère, 4,5 degrés, raisonnablement amère, mais quand même un peu amère, voilà, bien désaltérante. Et mon ambrée que j'appelle l'étrange vallon, qui est une ambrée avec la particularité... d'être au genièvre sauvage. Je vais cueillir des baies de genièvre dans la forêt au-dessus de chez moi. Et j'ajoute ça à un moment donné dans la bière et ça lui donne quelque chose de particulier. Voilà.
C'est une passion aussi de rechercher des plantes, des arômes, des parfums aussi, de profiter de ces randonnées, de ces promenades pour aller à la découverte de certaines plantes. Est-ce que tout au long de l'année, vous procédez à des expérimentations, des tests pour peut-être trouver aussi d'autres manières de produire ?
Mais exactement, vous avez vraiment mis le doigt dessus. En fait, il y a beaucoup de mes bières, je pense que je les crée pendant que je me promène. Et en prenant des plantes, en les écrasant dans mes mains, en sentant le genièvre, c'est évident. Mais j'ai des projets avec des fleurs de thym. Là, ça va bientôt être la période des fleurs de sureau. J'ai déjà l'année dernière fait un brassin éphémère au sureau. J'espère avoir l'occasion de le refaire parce que c'était chouette. Quand j'habitais en Bourgogne, dans mon jardin, j'avais un magnifique pommier et j'ai fait une bière qui s'appelle la tentative de pomme, où il y avait une bonne dose de pomme là-dedans et avec aussi les levures et les bactéries indigènes qui sont sur la pomme, et ça a donné un truc vraiment intéressant. À l'automne dernier, j'ai fait une bière que j'ai appelée Bon Voisinage en collaboration avec mon voisin Thierry Marcel, qui est producteur de clairette. Et donc dans cette bière, c'est une recette que j'avais fait spécialement et j'ai ajouté du jus de raisin muscat. Et c'était plutôt convaincant, j'ai eu de bons retours. Donc voilà, oui, je m'amuse et c'est aussi la souplesse que me donne le fait d'être tout petit, de ne pas avoir de distributeur. Je ne suis pas astreint à produire tant de litres de telle bière toutes les semaines. Je fais un peu ce que je veux.
On va en parler par la suite. Et justement, ces expériences avec des plantes, plus la fermentation de levure, est-ce que ça produit certaines altérations dans les arômes, dans les saveurs ? Est-ce que vous veillez à ce que justement, il n'y ait pas trop d'impact aussi ? Ça, c'est tout un travail.
En effet, là, je suis dans une phase, de ce point de vue-là, qui est un peu délicate, parce que comme je suis passé de brassins de 25 litres à des brassins de 150 litres, et que maintenant, j'ai l'étiquette professionnelle, donc ça veut dire que je suis quand même censé vendre la bière. Il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit un minimum maîtrisée. Et le truc de la bière, c'est que c'est assez fragile, c'est assez délicat. Et la hantise de tous les brasseurs, c'est l'infection. Alors l'infection, ça veut dire... Il n'y a rien de dangereux pour les consommateurs. Ça veut simplement dire qu'au lieu que ça soit des levures qu'on a choisies qui vont fermenter la bière, ça va être d'autres choses qu'on n'a pas choisies. Alors ça peut être des levures sauvages, ça peut être des bactéries. Et ça peut donner des choses qui... Ça ne sera jamais toxique ou dangereux, mais ça peut simplement être pas bon. Ou avoir des goûts vraiment bizarres. Donc, dès lors qu'on commence à ajouter des fruits, des baies, des herbes et tout ça, il faut faire attention à ça. Donc, il y a des manières de faire. Hein. Par exemple, simplement de faire bouillir un petit peu pour stériliser ou d'ajouter en même temps beaucoup de houblon, parce que le houblon, c'est antiseptique. Oui, il y a une prise de risque. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je peux assumer à mon échelle. Parce que si je rate un brassin de 150 litres, bah, évidemment, je serais déçu. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion. Mais ce n'est pas la fin du monde, en fait. Quoi.
Alors, vous parliez donc de ces promenades à la recherche de ces plantes. Et puis, il y a le houblon, hein, élément principal. Lui-même, vous vous fournissez ou alors est-ce que vous tendez à produire vous-même votre houblon ?
Alors, les deux. J'ai planté du houblon, effectivement, dans mon jardin. J'ai fait un brassin avec ce houblon, pas cette année, mais l'année d'avant. Alors, c'était un petit brassin amateur. Hein. L'été dernier, j'ai pas eu de récolte parce qu'avec le climat qu'on a eu, enfin la météo qu'on a eue, ça a pas donné grand-chose. Donc, j'achète aussi du houblon. J'essaye d'acheter principalement du houblon en France parce que maintenant, il y a vraiment une filière qui s'est structurée. Il y a certains houblons qu'on ne peut pas trouver en France, qui sont très, très, très à la mode parce qu'ils donnent des parfums très exubérants de fruits exotiques, de choses comme ça, et qui sont malheureusement brevetés par des producteurs californiens et qu'on peut acheter qu'en Californie. Et moi, j'essaye de ne pas travailler avec ces houblons-là parce que je trouve ça étrange de faire une bière locale avec du houblon californien. J'exclus pas de les utiliser ponctuellement sur des brassins donnés, mais l'essentiel vraiment de ma production, et en tout cas les deux bières que j'ai pour l'instant, sont faites avec du houblon vraiment 100% français. Quoi.
Et puis l'ingrédient principal est aussi l'eau.
Oui.
Alors l'eau, vous la trouvez localement ?
Alors l'eau, j'ai la chance à Poney d'avoir une eau excellente, c'est l'eau du robinet, qui est en fait une eau de source. On capte deux sources à Poney et l'eau est vraiment très bonne, à la fois pour boire et pour brasser. Et je la modifie pas du tout. Alors certaines brasseries, enfin surtout des grandes brasseries, mais aussi des amateurs, prennent l'eau, la filtrent, ajoutent des minéraux, enlèvent des minéraux, la tripatouillent un peu. Pourquoi pas, hein, ça peut permettre d'obtenir des choses intéressantes. Mais moi, j'ai décidé d'assumer une sorte de notion de terroir. En fait, j'utilise l'eau qui est à ma disposition. Et il se trouve que je suis content des résultats. Donc, voilà.
Et puis, la mise en bouteille, ça, c'est aussi votre moyen de distribuer cette bière. Vous disiez d'ailleurs que vos bouteilles sont consignées et que vous les recyclez par la suite. Donc, vous vous êtes monté à un laboratoire pour traiter le verre, en quelque sorte.
Alors, un laboratoire, c'est un grand mot. C'est quand même...
Du moins...
Ça reste très, très, très artisanal et c'est beaucoup d'huile de coude, quoi. Mais effectivement... En fait, ça vient de deux choses. Pendant des années, quand j'étais amateur, je réutilisais toujours les mêmes bouteilles et je me suis rendu compte qu'en fait, une bouteille de bière ou une bouteille, j'utilise moi pour le coup des bouteilles type champagne, qui sont celles qui sont utilisées pour la clairette, c'est extrêmement solide. Ça peut durer, je pense, toute une vie de brasseur, sauf si on les fait tomber. Et encore, souvent, ça rebondit et ça casse pas. Et c'est complètement absurde, en fait, de fabriquer une bouteille, de la transporter à travers l'Europe, de la remplir, de la boire, de l'acheter dans une benne, de la broyer, de la balancer à l'autre bout de l'Europe, de la faire fondre et de la reformer. C'est absurde, quoi. C'est débile. Donc moi, j'essaye de réutiliser les bouteilles. Et encore une fois, à mon échelle, c'est relativement facile parce que je demande aux gens, la plupart de mes clients, pour l'instant, je les connais. Donc ils me ramènent les bouteilles. Et j'ai mis en place, là, récemment, une consigne. C'est dû aussi au fait qu'en ce moment, il y a, peut-être les gens sont au courant, il y a une crise du verre et une crise de la bouteille, et c'est compliqué d'obtenir des bouteilles neuves. Et en plus, c'est devenu extrêmement cher. Donc ça renforce vraiment ma conviction qu'il faut que les bouteilles, une fois qu'elles sont arrivées ici, il faut qu'elles restent ici, quoi, qu'on les lave et qu'on les réutilise. Alors la condition pour ça, j'en profite pour le dire, quand vous buvez une bière locale, artisanale, une fois que vous avez fini, rincez la bouteille. Rincez une fois ou deux. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, mais rincez, parce que sinon, dans les bières, c'est normal, il y a un dépôt au fond, c'est les levures qui étaient vivantes dans la bouteille. Ça va coller. Et une fois que c'est collé, c'est foutu. Là, on est obligé d'employer vraiment les grands moyens pour enlever ça. Et la bouteille, elle est plus ou moins foutue. Donc, il suffit d'un petit rinçage. Et ensuite, vous pouvez ramener la bouteille. Alors, moi, je fais ça. Il y a d'autres brasseries qui sont adhérents à un système un peu plus organisé qui s'appelle Ma bouteille s'appelle Reviens. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que je suis trop petit pour ça. Je fais les choses moi-même directement. Mais rincez les bouteilles. Voilà. Comme ça, on peut les réutiliser. Et ça, c'est vraiment mieux, quoi.
Et vous utilisez deux contenants différents, hein. L'un 75 centilitres et l'autre à combien ?
33 centilitres, c'est les formats classiques.
Ces bouteilles aussi ont besoin parfois d'une étiquette pour se prévaloir. Cette conception d'étiquette, vous l'avez faite vous-même ou alors vous avez fait appel à un graphiste ?
Alors effectivement, on l'a faite nous-mêmes, ma compagne Prisca et moi, c'est elle qui en est à l'origine. Ça a été aussi très long parce qu'on a changé d'avis de nombreuses fois. Je pense que là, on est à peu près arrivé à la version définitive. Et là encore, c'est extrêmement artisanal parce que ben voilà, les étiquettes, on les a dessinées et conçues nous-mêmes. Je les imprime à la maison, je les découpe à la main, je les colle avec du lait pour pouvoir justement facilement les décoller. Quand on ramène les bouteilles, je les trempe dans l'eau 10 minutes et l'étiquette s'en va toute seule.
Je parlais en ouverture d'émission, ce rendez-vous du 8 avril. Cette volonté pour vous, c'est d'organiser régulièrement des soirées et de manière déjà à faire goûter vos productions aux amateurs de bière locales. Hein. Et quelles sont les manifestations que vous prévoyez pour cette année ?
Alors déjà, ça va être la première samedi. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Mais j'ai pas beaucoup de visibilité pour l'instant parce que malheureusement je me suis cassé le poignet bêtement en montagne, j'ai fait une petite chute et donc en fait ça va dépendre de combien on boit de bière samedi parce que pour l'instant je peux pas brasser et comme entre le moment où on brasse et le moment où la bière est bonne à boire il y a quand même, ça dépend des bières mais il faut compter grosso modo 2 mois. J'espérais refaire une soirée au mois de mai, mais si samedi on est nombreux et qu'on boit beaucoup de bière, j'aurais sans doute pas assez de bière pour refaire une soirée tout de suite.
D'ailleurs, combien de temps prend ce processus de fabriquer une quantité de bière ?
Alors, pour faire de la bière, il y a une journée de brassage. Là, c'est la journée vraiment où on fabrique, on extrait le sucre en fait de l'orge. On fabrique une espèce de jus sucré à base d'orge. Qu'on va donner à manger aux levures. Donc ça, ce processus-là, c'est une journée, c'est une bonne grosse journée, quoi. Et à la fin de la journée, on met ce jus sucré qu'on appelle le mou dans un récipient qu'on appelle un fermenteur, et on le met avec la levure. Et à partir de là, c'est les levures qui font le boulot. Et c'est la phase de fermentation qui dure à peu près 15 jours. À la fin de ces 15 jours, on va mettre en bouteille... On va mettre un tout petit peu de sucre, c'est vraiment très peu, hein, c'est 5-6 grammes par litre, dans les bouteilles. Et on ferme les bouteilles avec une capsule. Et en fait, il va y avoir une reprise de fermentation légère dans la bouteille, c'est-à-dire que les levures qui sont encore vivantes vont manger ce sucre. Donc il ne reste pas de sucre ensuite. Hein. Et en mangeant ce sucre, elles vont faire du CO2, du gaz carbonique. Et comme ce gaz carbonique, il est piégé par la capsule, il reste dans la bouteille, c'est ça qui fait les bulles de la bière. Donc ça dure à nouveau 15 jours. Et donc là, on est à peu près 4 semaines. Et ensuite, il y a un temps de garde pour que la bière s'affine et qu'elle soit bonne. Et là, c'est très variable. Pour une bière légère, blonde, comme la Cascade Pâle, ça peut être 2 semaines, ça peut être suffisant. Si on fait une Imperial Stout, c'est-à-dire une bière noire très forte, là, ça peut être plusieurs mois, voire certaines bières s'améliorent vraiment après 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est très variable.
Des bières millésimées, en quelque sorte ?
Oui, bien sûr. Alors, millésimées, peut-être pas au sens du vin, parce qu'on est moins quand même soumis aux effets de chaque année, du temps qu'il fait, etc. Mais par contre, des bières avec... En fait, en France, on est obligé de mettre une date de péremption sur les produits comme ça, ce qui est complètement débile, mais bon, voilà, c'est comme ça. En Belgique, c'est quand même le grand pays, l'un des grands pays de la bière, en tout cas, ils ne sont pas obligés. Et par contre, souvent, ils mettent non pas la date de péremption, mais la date de fabrication, comme sur le vin. C'est-à-dire, on sait que cette bière, elle a un an, elle a deux ans, elle a cinq ans, elle a dix ans, elle a vingt ans, pourquoi pas.
Ça peut se conserver jusqu'à cette date, 20 ans de bière.
Alors, encore une fois, ça dépend des bières.
Oui, c'est comme... mais par expérience, vous en avez connu?
Oui, bien sûr. C'est comme le vin, en fait. Il y a des vins qui sont conçus, qui sont vinifiés pour être bu jeune, et d'autres qui sont conçus pour être bu au bout de 5 ans, 10 ans, voire plus. La bière, c'est la même chose. Alors, la plupart des bières, c'est plutôt... c'est pas forcément bon de les conserver, elles vont pas se bonifier. Notamment des bières qui sont très houblonnées, c'est-à-dire des bières comme les IPA ou les Pale Ale, parce que les arômes de houblon sont assez fragiles, assez volatiles, et au bout de quelques mois déjà, on commence à perdre un petit peu. Donc la bière sera toujours bonne à boire, mais elle aura moins de goût. Par contre, des bières plus maltées, plus fortes en alcool, plus brunes souvent, mais pas forcément, mais enfin quand même globalement des bières comme ça, elles vont au contraire se bonifier dans le temps.
Et puis, donc, les voleurs de pompes, c'est la première formation d'Iwaze qui animera cette soirée du 8 avril. Peut-être pour les personnes qui ne peuvent pas attendre le 8 avril ou d'autres dates, il y a peut-être un moyen aussi de l'apprécier, cette bière ou ces bières.
Oui, alors on m'a dit que faire venir les voleurs de pompes dans une brasserie, c'était peut-être pas prudent, mais j'espère qu'ils voleront pas mes pompes.
D'autant bien, qu'il n'y a pas de pompes.
Mais il n'y en a pas, donc je risque pas grand-chose. Et oui, il y a un endroit à Aldi où on peut trouver mes bières, c'est au Pestel Café. Donc c'est l'association qui a repris le bar du Pestel, le cinéma de Aldi, qui ont eu la gentillesse de mettre mes bières en avant. Et pour l'instant, ça sera le seul endroit. Après... on verra si il y aura peut-être d'autres collaborations de ce genre-là, ponctuelles, peut-être avec des restaurants ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais le fait que je suis tout petit m'interdit de toute façon d'être à la pompe dans tel ou tel lieu ou d'être à l'année dans tel ou tel magasin, c'est vraiment pas l'idée.
Voilà, d'autant que la brasserie n'est pas votre principale activité, vous en avez d'autres à côté, donc un temps pour chaque chose.
Oui, exactement. Il n'y a que 7 jours dans la semaine. Des fois, ça ne suffit pas. Mais effectivement, j'ai un autre métier à côté qui m'occupe quand même pas mal. Et plus la brasserie, ça fait déjà beaucoup. Et comme je disais, je suis ici aussi pour être en montagne. Et là, c'est vrai que cette année, je n'ai pas eu autant le temps que j'aurais voulu pour aller me balader. Mais j'espère que ça va s'arranger.
Et puis d'être dans une sérénité, en quelque sorte, également. Ouais. On peut connaître votre brasserie aussi par le biais d'Internet?
Oui, alors j'ai créé une page Facebook il y a quelques jours. C'est un peu embryonnaire, mais effectivement, si on me cherche sur Facebook, on me trouve. Je vais essayer de l'alimenter un petit peu. Ça prend du temps, mais... En fait, je ne sais pas si c'est vraiment utile pour mon projet, parce que mon but, ce n'est pas d'être connu dans le monde entier. Mon but, c'est vraiment de toucher les gens localement. Et j'ai l'impression que dans le Divois, les choses se font beaucoup par connaissance directe, par bouche à oreille, un petit peu grâce à vous, par la Air Divois, par des affiches, des choses comme ça. Mais néanmoins, bon, je vais quand même essayer de faire l'effort d'avoir une page Facebook et de m'y tenir un peu, et de mettre des photos, et on verra bien ce que ça donne. Voilà.
Est-ce que dans l'idée, peut-être à un moment, organiser des stages d'initiation à la brasserie?
Oui, exactement. Vous lisez vraiment dans mes pensées, c'est impressionnant. Parce qu'effectivement, ça fait partie du projet. Alors pour l'instant, j'ai un petit peu mis ça de côté parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et puis j'attends aussi d'avoir un petit peu plus de légitimité, c'est-à-dire d'avoir quelques années de brasserie professionnelle derrière moi. Mais effectivement, j'aimerais bien faire des petits stages d'initiation, pas de formation, mais d'initiation, où les gens pourraient venir en petit groupe brasser une bière le temps d'un week-end, des choses comme ça. Oui, c'est quelque chose qui me plairait, d'autant que par le passé, dans une autre vie, j'ai été prof. Et voilà, transmettre, je trouve que c'est chouette, et surtout dans un contexte comme ça. Et puis ça serait l'occasion aussi de rencontrer des gens, de manger le midi, un petit repas partagé avec des producteurs locaux. Enfin voilà, il y a des choses chouettes à faire dans ce cadre-là.
Christophe Laize, merci d'être venu sur Air du Bois pour nous parler donc de la brasserie Laize et puis de cette première soirée qui s'est déroulée donc ce samedi 8 avril à Poney-Saint-Auban. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Thank you.